Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Berthe Esther Batroza Zichrona Livracha, la question de Daniel.
Je voulais savoir, sachant que l'un des buts du juif, c'est de transformer notre volonté de façon à ce qu'elle soit identique à la volonté de Dieu, je voudrais savoir comment cela est possible, sachant que c'est la cause initiale de notre personnalité et qu'elle, donc, par conséquence, ne peut pas être la conséquence de nos actions.
Ok. Donc, il est vrai que notre volonté, elle est la, comment tu as dit ça, la cause initiale de notre personnalité. Peut-être pour appuyer ce que tu as dit, je vais dire une chose que j'ai déjà dit souvent ici, c'est une parole de Rabbi Yehuda Hassid, c'est pas une Mishnah, ni une Brata, ni une Gemara. Rabbi Yehuda Hassid a écrit Sefer Hassidim, et là-bas, il dit, si on veut honorer quelqu'un, comment on fait pour l'honorer? Je peux l'honorer parce qu'il est intelligent, je peux l'honorer parce qu'il est sympa, je peux l'honorer parce qu'il est riche, parce qu'il est beau, etc. Dans tous ces cas-là, ce n'est pas lui qu'on honore. Parce que si tu honores son intelligence, un jour, il devient bête, le pauvre, il est devenu sénile, d'accord? Alors, tu ne vas plus l'honorer. Pourtant, lui est toujours là. Donc, ce n'est pas lui que tu as honoré, c'était son intelligence. Idem son argent, le jour où il y a la crise, il n'y a plus rien, tu ne vas plus l'honorer alors que lui est toujours là. Idem, aujourd'hui il n'est pas sympathique, il est très, très antipathique, pourtant il est toujours là. Idem sa beauté, le pauvre était défiguré, etc. Alors c'est comment honorer lui? C'est qui? Moi. Alors moi, c'est une sorte de bidule que je ne sais pas ce que c'est. Et la Gemara, elle dit qu'il y a beaucoup de choses relatives entre Dieu et nous. On peut apprendre comment est Dieu. Il y a 5 points dans lesquels Dieu ressemble à Dieu par rapport au monde. Il est comme notre âme par rapport à nous. Notre âme remplit le monde, Dieu remplit le monde. Notre âme est invisible, Dieu est invisible. Sans notre âme, on meurt. Sans Dieu, on meurt. Etc. L'âme n'a pas besoin de manger, Dieu n'a pas besoin de manger, il n'a pas de corps, etc. Donc l'âme, de même que Dieu est une chose tout à fait indéfinissable, personne ne sait ce que c'est que Dieu, personne ne sait ce que c'est que l'âme. Parce que nous sommes construits dans la matière, et nous définissons les choses grâce à la matière. Ok, donc notre âme, on sait qu'elle existe, on la ressent, mais la définir, on ne sait pas. Comment pouvons-nous savoir un peu qui sommes-nous? Connaître quelqu'un, c'est connaître en fait sa volonté. L'honorer, comme ça dit Rabbi Yehuda Hassid, « Retsono shelalam ukevodo ». Tu veux honorer quelqu'un? Son honneur, c'est respecter sa volonté, parce que c'est ça, lui. La volonté, comme tu as dit, est la chose initiale qui sort de ma personnalité. La chose la première qui sort de ma personnalité, c'est mon âme, c'est moi, d'accord? Moi, qui suis-je? Je ne sais pas, mais l'expression la plus intime, propre à moi, est ma volonté. Ta question, il est marqué qu'on doit annuler notre volonté par rapport à celle de Dieu. Comment je peux annuler moi, alors qu'il y a moi? Je suis avec tout mon bagage. Alors il faut tout simplement pour répondre à ta question, il faut expliquer c'est qui moi. Et là, il y aura une réponse très simple. Moi, indéfinissable, c'est vrai, mais la mystique juive vient et nous dit, bien qu'on ne comprenne pas très bien ce que c'est, mais elle nous donne quand même des noms et des certains degrés de compréhension. La mystique juive, elle s'occupe en fait d'expliquer tout ce que la raison ne peut pas comprendre de façon rationnel, d'accord, je peux, grâce à mon intelligence, l'observation scientifique, je peux analyser le monde, être un grand physicien, un grand médecin, un grand chimiste, un grand etc. Mais je ne pourrais jamais connaître le monde métaphysique. Métaphysique, parce que là, il faut une révélation. La mystique juive, la Kabbalah, eh bien, elle révèle comment Dieu agit dans ce monde, quelles sont toutes les réalités métaphysiques qu'il y a. En premier, qui suis-je? Alors, on est formé de 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yachida. Les 3 dernières, on les appelle Neshama parce qu'elles sont tellement hautes qu'en fait elles sont un peu mêlées, d'accord? On appelle ça Neshama. Ce sont déjà des parties très très hautes. Donc on va dire en gros Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la partie métaphysique de notre être qui gère les pulsions corporelles. Et 99% du temps, nous fonctionnons rien que par le Nefesh. La fatigue, la paresse, l'envie, la jalousie, la haine, la colère, l'instinct de conservation, l'instinct de reproduction, l'instinct de nutrition, toutes ces choses-là, qui sont des instincts, ce n'est pas palpable, ça vient du nefesh. Ensuite, Rouar. Rouar, peut-être on va passer dire directement à Neshama. Neshama, c'est une chose qui est complètement divine, qui n'est pas en nous. Et bien que Chazal dise que la Neshama demeure dans le cerveau, quand on met le tefillin le matin, il faut penser, ça fait partie de la mitzvah des tefillin, c'est nécessaire si on n'a pas fait la mitzvah comme il se doit, on l'a faite mais pas comme il se doit, il faut penser, entre autres, qu'on porte les tefillin dans lesquels il y a deux textes, celui de la unicité de Dieu et de la... l'unicité de Dieu et c'est pour l'histoire de la sortie d'Égypte, qui nous montre que Dieu est le maître incontesté de tous les mondes supérieurs et inférieurs. L'histoire de la sortie d'Égypte prouve cela, parce qu'on voit que Dieu nous sort d'Égypte par des miracles extraordinaires. Donc il nous montre que Dieu est le maître de tout, des mondes supérieurs et inférieurs, et tous sont subordonnés à son pouvoir, et nous mettons les tefillin de tête sur la tête, dans laquelle est le cerveau, dans lequel demeure la Neshama, et par là on pense qu'on subordonne notre Neshama à Dieu. Toute cette tartine, il faut la penser pour le tefillin de tête. Tefillin de bras, pour ce qui est le même texte, comme j'ai dit, unicité de Dieu et sortie d'Égypte qui montre que Dieu est le maître de tous les mondes supérieurs, inférieurs, tous lui sont subordonnés. On les met par rapport au cœur. Là, il y a c'est les pensées du Nefesh, d'accord, qui sont les pensées de recherche de plaisir, parce que le Nefesh, il est animal, il recherche le plaisir, et on pense par cela minimiser nos plaisirs, d'accord. Le but, ce n'est pas assouvir le corps, mais assouvir la Neshama. Oui.
Sûrement, mais je crois que dans Agada, dans Masrat Barafat, on dit que le Nefesh est dans le foie.
Le Nefesh, c'est vrai. Le Nefesh, il demeure dans le foie, le Rouar dans le cœur et la Neshama dans la tête. Tu as raison. Mais au niveau des films maintenant, on dit que c'est Mishkan Amarshavot, le lieu des pensées. Quelles pensées? Les pensées, c'est là. Les pensées bestiales, elles sont au niveau du cœur. C'est le cœur qui te pousse à. C'est parce que le cœur, il a une impulsion du foie. Mais je ne peux pas rendre mon foie intelligent. Je mets un tefillin sur le foie, ça ne va rien faire. Je mets un tefillin sur le cœur, je peux arriver à sanctifier un peu mon cœur. Alors quand on dit, quand Chazal dit, que c'est également la Gemara que tu cites, que la Neshama, elle demeure dans le cerveau, ce n'est pas qu'elle demeure entièrement. Elle demeure là-haut, c'est là-bas qu'elle est. C'est marqué qu'elle se trouve dans la bouche de Dieu. C'est un haut niveau, la Neshama. Maintenant, il y a une certaine entité qui est le rouar, d'accord, qui est un certain rouar. Maintenant, il faut dire, quand je dis Nefesh Ruach Neshama, il faut comprendre qu'il y a aussi plusieurs degrés. Parce que quand je dis Nefesh Ruach Neshama, il y a aussi dans Nefesh, il y a aussi Nefesh Ruach Neshama. Et dans rouar, il y a Nefesh Ruach Neshama. Et dans Neshama aussi, Nefesh Ruach Neshama. Donc je dis en gros, d'accord. Donc il se peut que tu diras, oui, mais là c'est là, ça c'est là, ça dépend de quel degré tu parles. Le degré que je parle maintenant, le général, la Neshama, elle est complètement divine dans la bouche de Dieu. Le Nefesh, elle est complètement corporelle, et c'est vrai qu'il demeure dans le foie, c'est-à-dire le sang. Le sang, ce qui fait vivre l'être, c'est marqué, il y a un verset qui dit, Adamo Nefesh. C'est marqué aussi différemment, Nafsho Bedamo. Nafsho Bedamo. Son Nefesh, il est dans le sang. Parce que le sang, c'est ce qui fait vivre l'être. D'accord. Maintenant, il y a le rouar. Le rouar, c'est un souffle, comme son nom l'indique. Donc c'est en fait un mouvement qui part depuis la Neshama, jusque dans nos têtes. C'est-à-dire, le rouar, il va prendre des morceaux de Neshama, les faire descendre dans nos têtes. Parce que quand on dit que la Neshama, elle demeure dans nos têtes, c'est en fait des parties qui ont été tirées de là-bas. C'est un éclairage de la Neshama qui vient par le rouar dans nos têtes. Donc, en fait, on a trois degrés. Nefesh, rouar, Neshama. Neshama, c'est éclairage complètement divin. Nefesh, éclairage complètement bestial. C'est pas éclairage, obscurcissement complètement bestial. Nous, c'est ça. Nous, c'est le rouar. Adam, c'est le rouar. Et là, ça rejoint ta question aussi, Eyal, c'est quoi le libre-arbitre? Quand, c'est un exemple que j'ai pris souvent, quelqu'un va au restaurant et on donne la carte. Et il peut choisir maintenant, en, je ne sais pas moi, ravioli ou lasagne, d'accord, lasagne cachère. En fonction de quoi il choisit? Alors, une chose qui est claire, ce n'est pas lui qui choisit. Il n'a aucun libre arbitre de choisir. Non. Il choisit, ça veut dire il va suivre la pulsion la plus puissante. C'est pas son ratson. La question, c'est le point qui intéresse. Nous, c'est là. D'accord? Mais ce nous, maintenant, il devra choisir entre Neshama et Nefesh, quand il y aura un choix entre Neshama et Nefesh. C'est quoi un choix entre Neshama et Nefesh? Quand l'éclairage divin me dit une lasagne, c'est pas cachère, et le Nefesh te dit non, mais ça va, c'est pas, on va dire, c'est une lasagne au fromage, c'est pas, la viande, c'est grave, d'accord, mais on va dire, ça, c'est une lasagne végétale. D'accord. Bon, et les végétaux, est-ce qu'on visitait de toutes les bébêtes qu'il y a dedans? Jamais. D'accord. Donc il y a un tas de bébêtes, donc tu as un truc végétal, pas mal zoologique, d'accord, carnivore déjà, tu as mangé pas mal d'animaux dans ton végétal. Ensuite, le lait, il n'est pas chamour, le fromage, c'est un fromage qui n'est pas cachère, donc, et beaucoup de choses qui... Oui, mais... Non, mais c'est, le ravi, c'est pas permis. Oh, ça va, elle exagère. Il y a un débat entre les deux. Un débat entre la partie Torah, désir de Dieu, et ma pulsion animale, qui toujours, c'est un truc que je donnais souvent, d'accord. Comment la pulsion animale répond? Elle ne peut pas répondre avec un argument intelligent, c'est cachère. La Neshama dit, le Rabba dit, c'est pas cachère. Elle répond, oui, mais. Oui, parce que je ne peux pas dire autrement, parce que tu as raison dans ta argumentation, mais j'ai un tas de mais très très fort. Mais j'ai faim. Mais alors qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas jeûner maintenant, je n'allais pas prendre une demi-heure. Mais on sait bien que ce rabbin, il est super marmire. Mais, et puis il y a la tchouva, d'accord, Yom Kippour, à quoi ça sert? Si je n'ai pas des péchés, je viens avec quoi à Yom Kippour? Tout un mais intéressant, même au Maroc, on faisait bien comme ça, d'accord, à tous les... Mon grand-père en Tunisie, voilà, d'accord, en Maroc, voilà, en Pologne, chacun avec ses origines. Tu as toute une collection de mais énormes qui sont jamais, jamais une argumentation rationnelle. C'est tout des arguments bébêtes. C'est du genre, oui, mais j'ai pas assez dur, mais j'ai pas envie, c'est estomacal. Quand tu veux définir qui parle, c'est très intéressant. La Neshama, elle parle toujours, il faut. Il est juste. Il n'est pas bien de. Il faut faire comme ça. C'est faux. D'accord? C'est bien de faire ça. Le Nefesh répond toujours, oui, mais... Un énorme, dévasté par les mais énormes. D'accord? Tu avais une question?
La Nefesh Abamine ou la Nefesh Elokit, comment est-ce qu'elle est où dans tout ça?
Nous, on considère qu'en effet, chez Lokit, c'est Neshama.
En fait, c'est comme le Yetzerara et le Yetzeratov.
Oui, tout à fait. Yetzerara et Yetzeratov, voilà, si tu préfères.
Libre arbitre de choisir entre celui-là ou celui-là.
Oui. Donc, tu as un libre arbitre. Ouais, je suis en train de répondre à cela.
En gros, c'est la conscience, tout ça. Ça se mélange dans la conscience, le Neshama et le Nefesh.
Notre conscience, c'est et là le problème. Avant le péché originel, le mal est extérieur à nous. Le serpent vient, parle à Ève. Ève l'écoute, ingurgite du fruit, en fait manger à son mari, dès lors le mal, il est en nous. C'est marqué l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaissance en hébreu c'est dat, dat tovara. Dat en hébreu signifie union. C'est marqué que Adam a eu du dat, Adam yada, est Hava, il a su Ève, et est né Caïn et Abel, son nez, Ouchette, d'accord? Idem, Abraham, Yada et Sarah, Abraham, il a su Sarah, c'est le terme utilisé pour l'union intime. Donc, date, connaissance, signifie union. L'arbre de connaissance du bien et du mal, que quand elles mangent ça, maintenant, ils sont unis en toi. Et moi, dans ma conscience, maintenant, j'en ai deux qui parlent. J'ai pas envie de me lever le matin. Avant, ce n'était pas comme ça. C'était clair, il faut se lever. Quoi, on va prier maintenant, à 7 heures, je suis en retard. Il faut se lever, clair. Le Yetzera vient d'extérieur, oui, mais... Allez, dégage. C'est extérieur, maintenant il est dedans. J'ai pas envie. Oui, mais c'est dur. C'est dur pour moi. D'accord, le Yetzera, nous avons en nous deux parties qui parlent, et qui parlent au nom de je. Là est tout le danger. Un qui est le Nefesh, qui raconte toujours des histoires, et qui n'a pas d'argumentation rationnelle, c'est le « oui mais » dont je parle, et la Neshama, qui elle dit ce qui est juste, faux. Maintenant, notre arbitre ne peut s'exprimer que dans le choix entre ces deux choses-là. Mais quand j'ai un choix au niveau du Nefesh, là il n'y a pas de choix, le Nefesh il est animal. L'animal il a un seul critère de décision. Recherche de jouissance maximale, fuite de souffrance maximale. Donc lui, maintenant, quand il a lasagne et ravioli, ben il va regarder où est-ce qu'il y a sa salive plus, où est-ce qu'il a plus envie, d'accord? Maintenant, l'envie, de quoi elle vient? C'est pas lui, ça lui a été donné. Le Nefesh nous est donné. La Neshama nous est donnée aussi. Ce n'est pas nous qui avons décidé, ça nous est donné. Le Ruach, il peut décider entre les deux. Mais les pulsions du Nefesh, pulsions du Neshama, ça ne dépend pas de nous. En tout cas, dans l'initial. Après, on peut affiner le Nefesh et agrandir la Neshama, ou atrophier complètement l'appel de la Neshama et devenir complètement bestial. Oui. Mais à l'origine, initialement, c'est 50-50. Et on a un appel égal vers le bien, j'ai mis dans la vie et la mort, le bien et le mal, choisit la vie. Donc on a un libre-arbitre total de choisir entre les deux. Maintenant, le Nefesh, lui, il est bâti de quoi? Il est bâti de mon corps, avec l'apport génétique que j'ai, avec mes traits de caractère qui ne dépendent pas de moi, c'est la nature, c'est Dieu qui me l'a donné, du background éducatif. J'adorais lasagne quand j'étais petit et ma grand-mère toujours m'en privait. Depuis, j'ai fait une fixation. Dès que je vois le mot lasagne, je deviens fou, d'accord. Au contraire, on me force à manger des raviolis. Dès que je vois des raviolis, ça passe pas, d'accord. Donc il y a un background éducatif, social. Il y a la recherche de cabot, de la frime, d'accord. Qu'est-ce qui coûte plus cher aussi? Qu'est-ce qui est moins cher? Ça coûte bien cher, donc j'ai besoin d'argent. Donc je prends un peu moins cher, bien que j'aurais bien voulu le meilleur. Ou bien non, au contraire, on va montrer qu'on est vachement riche et on va faire de la frime autour des gens, d'accord. Bien que je préfère celui qui est moins cher, mais ça fait idiot de prendre un truc pareil dans un restaurant pareil. On prend quelque chose de plus cher. Il y a 40 000 arguments qui vont venir, qui sont tous du domaine de qu'est-ce qui me fait le plus plaisir. Mais je suis incapable de faire le contraire de cela, parce que je suis le Nefesh. Il choisit, il est là pour rechercher la jouissance. Quand tu vas au restaurant, tu recherches, c'est pas une corvée. Tu vas au restaurant pour jouir. Donc le Nefesh, il choisit. Mais vu que le Nefesh choisit en fonction de ce qu'il est, et ce qu'il est, ça n'a pas été décidé par moi, c'est indépendamment de moi, donc on croit qu'on choisit, on ne choisit rien du tout. T'as vu une pub maintenant, paf, tu choisis ça. Pourquoi les gens... Tellement d'argent qui va en pub.
Il n'y a pas de libre-arbitre.
Aucun libre-arbitre. Dans le Nefesh, aucun libre-arbitre. Pourquoi les boîtes mettent tellement d'argent dans la pub? Ça marche. Quand je vois une affiche qui est bien faite, bon, après, quand je vais au magasin, tac, qu'est-ce qui s'est passé? On parle mon Nefesh. Ils savent travailler sur, tu dois être une bonne femme. On sait que le Nefesh a une pulsion sexuelle très forte. On te suggère un plaisir quand tu prends la savonnette, voilà, je suis avec la bonne femme, je suis en train de me savonner, d'accord? Ou bien Coca-Cola, d'accord? Le goût de la vie, tu la vois dans l'arrière-plan comme ça, souriant, tu lui aussi, voilà, avec le goût de la vie, ah ouais, qu'est-ce qu'on kiffe, d'accord? Et ça marche! Combien de milliards de dollars par en pub? Ça marche! Parce qu'on va réveiller, tu vois, on sait sur quoi travailler, les pulsions jalousie. Tes voisins seront verts de jalousie. Il y a des pubs comme ça, on a vu. Vos voisins seront verts de jalousie. Les gens, ils achètent ça. Maintenant, les gens, ils culpabilisent maintenant de dépenser de l'argent. Alors, ils te mettent un truc, tu achètes ça, tu as ça gratuit. D'accord? Tout le monde sait que c'est pas gratuit. Il n'y a personne qui me donne gratuit. D'accord? Mais quand c'est mal gratuit, tu déculpabilises. On t'a fait maintenant le prix plus cher, on t'a fait comme ça, on t'a fait solde. Ah bon, c'est une occasion. C'est tout des trucs pour faire que le Nefesh, plus facilement, il aille acheter. Il y a des savants qui travaillent là-dedans, d'accord, c'est fait pour ça.
Mais
alors, dans le Nefesh, il n'y a aucun libre-arbitre. Quand tu as des choix qui sont du domaine du Nefesh, lasagne, ravioli, d'accord, Coca-Cola, 7-Up, il n'y a pas de choix. Quand il y a un choix entre le corps qui te dit lasagne et la Nefesh qui dit elle n'est pas cachère, ou bien ravioli et la Nefesh qui te dit travaille sur tes midotes maintenant, un peu tawatar qui là, essaie de moins penser à ce qui est bon à manger, pense à plus, essaie de moins renforcer ton etc. parce que ça renforce, hein, c'est un muscle. Le etc. la Neshama et le Nefesh, ce sont des muscles. Comment on travaille un muscle? C'est en le faisant travailler. Lorsque tu satisfais beaucoup le Nefesh, eh ben, il commence à être beaucoup plus exigeant. Demandeur, Chazal on dit, il y a un petit organe. Regardez, David Ameller. Il s'est plaint. Je voulais faire un cours de 2 minutes, on est parti pour le... Désolé Yoni, donc ça sera la prochaine fois. Lui, Nader. David Ameller, il s'est plaint à Dieu. C'est marqué Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Et pourquoi pas Eloke David? Je suis la quatrième roue du chariot divin. Dieu lui a dit, les trois premiers, je les ai éprouvés. Toi, je ne suis pas éprouvé. Alors David a dit, éprouve-moi aussi. Il dit, tu ne tiendras pas. Je tiendrai. Écoute, tu ne tiendras pas, mais tu veux, je t'éprouve. Et mais pour te montrer à quel point je suis bon avec toi, je te dis quand je t'éprouve et sur quelle avéra. Je t'éprouve aujourd'hui avec une femme. Bah, Ça va. Ce qu'on nous dit à nous maintenant. Aujourd'hui, il y a une femme qui va venir te tenter. Et si tu tiens le coup, tu deviens la quatrième loup de la mer Kava, ça va. Tu t'enfermes dans les toilettes. Tu dis d'accord, tu mets 40 000 soldats. Pas de femme, d'accord. Juste pour la petite histoire, c'est sympa, ça me rappelle par association d'idées. Si une femme veut rentrer, d'accord, il y a Rabbi David Abou Khatser à Naria, il ne reçoit pas les femmes. Fils de Rabbi Meir, qui ne reçoit pas les femmes aussi, bah c'est bon, c'est toute une façon de faire depuis ancestrale, de super, super Kudusha. Il y a une bonne femme, journaliste, qui a voulu faire un article sur Rabbi David. Tous les jours, reçoit 1000 personnes par nuit, ça afflue du monde entier. Donc, elle s'est déguisée en un chapeau, la barbe, machin, tout ça. Quand tu rentres chez Rabbi David, tu rentres dans sa chambre, et où il reçoit, mais il y a une grande queue à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a une dizaine de personnes comme ça. Bon, elle rentre dans la chambre, Rabbi David dit, il y a une femme ici. Il a senti comme ça. Ils ont vérifié, tac, tac, allez, hop, dehors, d'accord. Donc toi, tu t'enfermes, tic, 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 tu mets de la main d'une garde, d'accord, et voilà, tu tiens bon jusqu'à ce soir, hop, t'es appelé, 4 amours de la mère Kava. Qu'est-ce qu'il a fait encore plus, le roi David? Il dit, pour pas que j'ai une envie subite qui vient maintenant, je vais me satisfaire. Il avait Bliainara 18 femmes, donc il a pris une femme, il a une relation avec elle, et comme ça, voilà, ça va, quelqu'un qui après une relation, il n'est pas trop en manque. Chazal dit, il a oublié une halakha, il a oublié une loi. Ever katan ishba adam, il y a un petit organe chez l'homme, mar ivo, savea, celui qui la femme, alors il est rassasié. Masbiro raev, celui qui le rassasie, il est affamé. T'as rassasié maintenant ton organe, et ben il va être affamé. Plus, c'est connu dans tout, quand tu donnes dans quelque chose, tu deviens assoiffé de cette chose-là. Dans n'importe quel plaisir, quelqu'un il s'habitue maintenant à boire du sucre dans le café. Ouais, il s'habitue à boire du café, il s'habitue à fumer, il s'habitue à n'importe quoi, n'importe quelle habitude, à se lever tard le matin. N'importe quoi, ça devient une habitude. Une chose te pousse à aller dans ce sens-là. C'est comme un muscle. Maintenant, toi, tu as deux muscles. Tu as le muscle nefesh, le muscle neshama. Plus tu vas travailler pour minimiser les envies du corps, donc la bonne lasagne, c'était pour ça que je parlais de cela, tu es au restaurant, je peux dire maintenant, ok, non, peut-être que le moment, maintenant on a un peu travaillé, je ne prends pas lasagne, j'aurais préféré lasagne, je prends ravioli, exprès pour me casser un peu au niveau de mes recherches de plaisir. Comme ça, tu gagnes, tu as grandi l'éclairage de la neshama. L'un exactement dépendant de l'autre, inversement. Plus tu grandis l'un, plus l'autre il va s'affaiblir. Plus tu grandis l'autre, plus le un il s'affaiblira. Alors le ratson maintenant, c'est quoi le ratson? Donc le ratson maintenant, c'est moi. Moi, je dois faire en sorte maintenant de mon ratson. Un ratson, tout le monde le ratson. Ratson, c'est une volonté. Chacun veut quelque chose. On a un rouard, d'accord, un souffle. Souffle qui nous pousse en avant vers. Je dois agir. Je ne peux pas rester sans rien faire. Quelqu'un ne peut pas rester sans rien faire. C'est impossible. Il devient fou. Il doit même, son géranium, le matin, aller l'arroser. La veille d'Adam, c'est sa raison de vivre. Faire le tour avec son chat dans la rue. C'est son but dans la vie. Il faut un but. Il faut. Maintenant, le ratson, tout le monde en a un. Qu'est-ce que nous avons comme capacité, nous? Le ratson, c'est malgré nous. Il vient. La capacité, c'est qu'on peut le tourner, le guider, l'aiguiller vers ou plus Neshama ou plus Nefesh. J'ai un ratson d'être riche. À moi de tout analyser maintenant. Qui parle? Qui parle? Le Nefesh ou la Neshama? C'est clair. Pourquoi quelqu'un veut être riche? C'est un bon exemple. Juste pour l'histoire, j'en profite. Le Chavetz Chaim, quelqu'un de saint. D'accord? C'est pas facile parce que c'est tellement... Dans le monde, la richesse, c'est tellement quelque chose comme étant associé à la réussite, ça prend du temps de comprendre que c'est vraiment une galère, d'accord? Quelqu'un qui vit heureux sans la richesse, il comprend que Baruch HaShem, il s'en est sorti de ne pas être riche. Le Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, il a fait un rêve, qu'il devenait riche. Il a jeûné une journée entière. Il a dit deux choses l'une. Ou le rêve, il est vrai, ou il est faux. S'il est vrai, je fais bien de jeûner, grâce à Shem que je devienne riche. S'il est faux, je dois absolument jeûner. Pourquoi Dieu m'envoie un rêve pareil, moi, un vieux pépé de bien de 90 ans presque, quand il est décédé, à mon âge, m'envoyer un cauchemar pareil, que je devienne riche, je dois jeûner pour ça. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Parce que la richesse, c'est que des problèmes. C'est que des problèmes. C'est que des problèmes. Il y a très peu. Hein? Le problème de la pauvreté est beaucoup moins difficile que celui de la richesse. C'est clair, clair pour les gens qui voient et qui savent et qui comprennent et qui... C'est évident. Sinon, je te ferai un cours là-dessus à l'occasion, c'est pas mon sujet. Alors là, c'est un exemple facile, parce que tu vois très bien que c'est pas vrai, c'est pas juste. Donc là, c'est clair que je dois faire un travail pour me dire, écoute, c'est faux. C'est pas raisonnable, c'est pas dans la vérité d'être riche. C'est tout simplement une envie de pouvoir, une envie de plaisir, d'accord. La richesse, c'est très estomacal, d'accord. Je suis pas là pour ça. Il y a autre chose. Prends un autre exemple.
Par exemple, tu traces des gens que quand ils sont malades, par exemple, qui perdent un proche, comment peut-il accepter une épreuve pareille? Il ne va pas dire merci, bah, Hachem, Hachem, que tu me. Voilà.
Alors, il est clair que quand quelqu'un, l'Oalechem, perd un proche, il y a des gens qui croient qu'on doit accoler Tova, tout est pour le bien, avec le même sourire. Non. Dieu, il a la Torah, elle dit, tu as 3 jours de pleurs, après 7 jours de deuil, 30 jours de deuil moyen, et une année pour les parents, une année de deuil, etc. Ça continue, et l'année... Simplement, il y a des fois où Dieu veut aussi que la personne soit en situation de... Un autre processus, qui est celui de souffrance, de perte d'un proche. Ça existe aussi, comme ça, ça fait partie de la réalité. Alors, comme... Alors, de nouveau maintenant, il faut être le travail à faire, il est lequel? Je dois maintenant être améti. Toujours quand j'ai un problème dans ma vie, quand ça ne va pas, je dois toujours regarder quelle est la vérité. Pourquoi ça ne va pas chez moi? Parce que ma volonté, mon désir, sachez que chaque fois que nous, on n'est pas dans le vrai, Dieu, quand il nous aime, il nous envoie une souffrance. La souffrance fait qu'on va se réveiller, pourquoi je souffre? Et qu'on verra tout à coup qu'on n'est pas du tout en phase avec le désir de Dieu. C'est-à-dire que la douleur, quelque part, elle est un moyen de nous remettre en face. Pourquoi je souffre? Je souffre maintenant parce que un proche nous a quittés. Ok, alors, il y a une souffrance qui est normale, j'étais attaché à lui. Maintenant, dire, j'aurais voulu qu'il reste. Et pourquoi Dieu, tu m'as fait ça? Là, ça devient déjà anormal, parce qu'on doit comprendre qu'il est normal. Depuis que la mort est dans le monde, depuis l'originel, d'accord, qu'à un certain moment, les gens quittent ce monde. Et quand eux quittent le monde, c'est très bon pour eux. Pardon? C'est très bon de toute façon. Même Gehenam, même accident. 8 ans, 2 ans, 1 an. Tous, on a eu ici à la Yeshiva 2 personnes qui ont eu des morts cliniques, qui sont partis et qui sont revenus. Les deux, j'en ai amené un qui avait un séminaire, c'est pas un élève de la Yeshiva, c'est un extérieur. Je l'ai amené, il a parlé. Et un de la Yeshiva qui a lui-même un accident de voiture aussi au Maroc il y a quelques années, tout ça, très très dur, qui a, il m'a dit après, j'ai vu la même chose que lui. Je suis parti là-haut, j'ai vu les anges, tout ça, des îles. Et les deux témoignent qui pour eux maintenant, ils n'arrivent plus à vivre ici heureux. Parce que c'est tellement bon là-haut. Ils sont rentrés que dans l'antichambre, de l'antichambre, de l'antichambre. C'est tellement beau qu'ici, c'est terrible. J'ai raconté ça dernièrement sur le net, question-réponse. Un type m'a écrit, c'est exactement comme ça. Ils sont même pas arrivés au jugement. Mais jugement, c'est quoi? Attends. Gehenom, d'accord? Ok. C'est quoi le jugement? Tu es dans le monde de vérité. Maintenant, tu vois, tu as été un crétin fini, tu as raté, tu as fait des erreurs, et tu as honte, c'est une honte terrible, et tu es avec cette tâche maintenant, pas dans le monde de lumière, face à Dieu. Tu dis, Dieu, mais enlève-moi ça, je veux bien, allez, on t'envoie là-bas, d'accord? Je ne sais pas comment ils font, d'accord? C'est une souffrance terrible, mais quelque part, vu que tu es dans le monde de vérité, alors tu souffres, mais tu comprends que tu le veux. C'est marqué. Gambrachot yate more. Gambrachot, ils vont bénir. Ils vont bénir Dieu, même dans l'enfer. Mazikim alam etadin. Ils acceptent la sentence de Dieu. Ils disent que c'est très bien. On est dans le monde de vérité. C'est comme si Hasé Shalom, quelqu'un maintenant, qu'est-ce que j'en sais? Il doit aller chez le dentiste. Qui aime le dentiste, hein, qui lève la main parmi vous? Personne n'aime se faire fraiser le dentiste. Chez le dentiste, d'accord, c'est terrible. Avec la piqûre avant, machin, etc. Bon, pourquoi tu y vas? T'as mal aux dents. T'as un problème. Tu sais que s'il n'y a pas comme ça, ça va être une carie, on peut mourir d'une carie. Donc ta tête te dit, va chez le dentiste, paye. En plus, tu payes, tu dis merci beaucoup, d'accord. Même chose. C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Quoi? Alors, ta tête, bien sûr, ta tête comprend qu'il faut souffrir. Le corps, il souffre, d'accord? Maintenant, l'enfer, c'est des millions de fois plus, mais la tête, elle est aussi beaucoup plus grande. La tête, elle comprend, elle est face à Dieu. Donc, c'est clair que les âmes, Dieu, il est bon. Les âmes supplient Dieu d'aller en enfer. C'est évident, parce que la saleté infinie, l'écran, Dieu, c'est une source de bonheur extraordinaire. Tu es là-bas. Maintenant, quand les tâches que tu as font des écrans, et tu as une soif de Dieu, tu dis, enlève-moi les écrans. Ok, comment enlève les écrans? Ou, voilà, exactement, c'est dans l'infini. Donc mieux vaut une souffrance dans le fini, pour après la communion, l'union avec Dieu, extrêmement kiffante pour l'infini. Mais c'est terrible, le jugement. Tu viens face à Dieu, rien que face à Dieu. Mais qui peut imaginer? Attends, quand quelqu'un il va à la tour Eiffel, il se penche un peu sur le parapet, il a déjà le vertige. C'est combien? 400 mètres, d'accord? Dieu, que c'est infini. C'est infini, que si on se rend compte, on se regarde un tout petit peu de qu'est-ce que c'est que la divinité, on ne pourrait pas bouger le petit doigt de terreur. Mais bien sûr que c'est traumatisant. Mais après, il y a une lumière énorme de bonheur, parce que ce même Dieu, il est à la fois redoutable, mais à la fois il est amoureux. Donc c'est tout dans l'infini. Donc quand on sent maintenant, d'un côté, on voit les péchés qu'on a fait, comment tu as fait ça, c'est redoutable et c'est terrible. Après, quand ça passe, parce que tu as été nettoyé, c'est une communion fantastique. Et dans l'antichambre, toutes ces personnes qui ont vu, ont dit la vie ici. Alors pour le type qui part, lui c'est certain que c'est bien. J'ai un élève de l'Eshiva, sa belle-sœur est décédée. Au Maroc, de nouveau, un accident. D'accord? Jeune, 28 ans, 29 ans. Eh bien, un mois après, elle est venue en rêve. Tout habillé de, quand on rêve de quelqu'un défunt habillé en blanc, c'est qu'il a déjà, il a fini son tikkun, il est où il est. Elle a dit, c'est extraordinaire, je suis très très bien où je suis. Elle a dit, attention, parce que dans ce monde-ci, on regarde avec beaucoup, beaucoup de sévérité la tsniout, d'accord, pour les femmes. C'est elle qui a dit, en venant de là-bas, elle était religieuse, elle a dit ça à une femme qui est super, super sévère avec elle-même au niveau de la tsniout. Et malgré tout, on l'a dit dans le monde à venir. C'est pour ceux qui nous c'est pas pour vous ça, mais pour vos femmes ou pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Donc, qui est le décret de mort dans le monde? C'est clair. Et on ne doit pas s'ouvrir, on doit pleurer, parce que c'est normal. Ce serait cruel de dire « Ah, mon proche est parti, youpi, tout est pour le bien ». Non, non, non. Lui, c'est pour le bien, mais moi, je souffre. Et on est en deuil. Mais on comprend avec la tête que pour lui, c'est pour le bien. C'est bien. Nous, c'est normal qu'on ait la souffrance et qu'on marque le coup bien, et parce qu'on souffre.
Dans ce cas-là, on doit suivre le nefesh.
Hein? Mais je ne peux pas dire maintenant, c'est pas bien de manger, je ne dois pas avoir Tavat Achila, alors je ne mange plus jamais. Il y a une normalité, on mange, d'accord, simplement, on pleure, parce qu'il faut pleurer maintenant, c'est normal. Nous ne disons pas qu'il faut annuler le Nefesh. Nous disons que le Nefesh doit être subordonné à l'Neshama. Le Nefesh, c'est un cheval. L'Neshama, c'est un cavalier. Enfin, c'est un peu différent. Le Nefesh, c'est un cheval. Le Rouach est censé être le cavalier qui va diriger le Nefesh en fonction des panneaux indicatifs de l'Neshama. Maintenant, le Nefesh donc, doit être subordonné, mais on ne doit pas l'annuler. On n'est pas des anges, on est des êtres humains. On doit faire qu'il soit un cheval qui répond, un cavalier qui dompte son cheval. Bahou Hadonai, l'homme.